à la fois un prix des Nations Unies, donc l'ensemble des pays dans le monde, mais surtout le nom de Nelson Mandela, qui est tout un symbole dans l'histoire de l'humanité. Donc je suis heureux d'avoir eu ce prix, qui est un prix qui est décerné tous les 5 ans à une femme et un homme qui auront travaillé pour la qualification des conditions d'existence de l'humanité.
Vous, docteur, vous êtes guinéen, la Guinée a une loi et on voit peu de progrès tout de même en Guinée, soyons réalistes. Est-ce que des peines sont appliquées? Pourquoi ça n'avance pas plus vite?
Comparativement aux autres pays, on voit des groupes communautaires qui font l'excision, il y en a qui ne font pas. Quand vous prenez par exemple le Sénégal, vous voyez qu'il y a le plus grand groupe communautaire, Wolof ne le fait pas. Au Niger, par exemple, il y a certains groupes qui le font, d'autres qui ne le font pas. En Guinée, en dépit de la diversité des groupes communautaires, ces groupes communautaires se rejoignent tous dans l'observance de la pratique des mutilations génitales féminines. Tout groupe communautaire confondu et toute religion confondue. Donc, c'est une pratique qui couvre entièrement le pays. Ça rend difficile l'élimination de la pratique. Deuxièmement, il y a le fait que nous avons eu à faire face à des petites résistances que l'on pensait insignifiantes, mais qui ont été vraiment dévastatrices, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec nous, qui prenaient des livres saints, qui allaient raconter n'importe quoi aux populations. Et globalement, en Guinée, nous avons tous été laxistes, permissifs, parce que personne n'arrive à dire, voilà, je vois des filles excisées en file indienne sur la route, je m'arrête et je dis, non mais vous devriez, où sont vos parents? On doit porter plainte contre vos parents, puisque la loi existe, mais tout le monde passe son chemin. Donc il y a eu ce manque d'engagement global, alors que les autorités, elles, se sont engagées. Vous avez parlé de 1960, maintenant c'est en 2018 que les premiers cas de jugement et de condamnation ont eu lieu.
Il y a eu combien de jugements à peu près jusqu'ici?
Ce que j'ai pu voir en Guinée, il y a eu 6 jugements devant des tribunaux. Il y a eu des condamnations, mais ce qui se passe souvent, c'est des condamnations à sursis. Mais sursis, ça ne signifie rien devant des populations qui ne comprennent rien au système judiciaire. Sursis, pour eux, c'est quelqu'un qui est venu, on l'a jugé et puis on l'a laissé repartir à la maison. Il n'y a qu'une fois, je crois, qu'il y a eu condamnation à la prison ferme. Nous sommes en train de faire ce plaidoyer pour que, quelle que soit la durée de la peine qui est prévue par le code pénal, de mettre la prison ferme. Ça va de 3 à 5 ans, puis à une amende, tout ça, ça existe. Si on emprisonne, alors ça va faire encore beaucoup plus d'effet.
Le comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants, vous êtes à Addis Abeba, donc au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine. Alors l'on sait que la volonté existe au niveau politique, au niveau pratique, est-ce qu'elle est réellement là?
Alors, je suis l'un des plus acerbes contre souvent nos dirigeants, je ne suis pas du tout tendre, mais ça, je le fais pour pousser l'agenda de la protection des femmes et des filles. Mais vraiment, je dois dire qu'il y a une avancée, il y a beaucoup plus d'engagement maintenant. Il y a des chefs d'État qui sont désignés comme champions dans un domaine donné. Et par exemple, le chef de l'État du Burkina a été désigné champion de la lutte contre les mutilations génitales féminines de l'Union africaine. Alors, ça montre qu'il y a un porte-drapeau qui tire tous les autres vers l'élimination des mutilations génitales. Elle est là, cette volonté politique. Elle est là, elle est manifeste. Mais elle doit être conjuguée avec aussi l'application des lois sur le terrain, avec l'implication des communautés, avec l'implication des victimes elles-mêmes. Et ça, tout cela doit se tenir en même temps. S'il y a une leçon que nous avons tirée, c'est que la séquentiation des luttes ou des stratégies, ça nous a beaucoup desservi. Nous avons formé, par exemple, les leaders religieux d'un côté, et puis ils sont allés sensibiliser d'un côté. Nous avons sensibilisé des parlementaires qui sont allés sensibiliser en tant que parlementaires, etc., etc., des journalistes. Mais maintenant, la nouvelle stratégie que nous sommes en train d'expérimenter, c'est de faire des groupes intergénérationnels et interprofessionnels pour que des personnes de générations différentes et de professions différentes se mettent en groupe de sensibilisation pour aller vers les populations, pour aller vers les communautés.
Alors à ce propos, aller vers les communautés, étant donné la pandémie de coronavirus, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour éviter qu'on ait une recrudescence d'excision? Parce que l'on sait que depuis la pandémie, les populations sont encore moins facilement accessibles.
Oui, absolument. Ça a affecté vraiment nos programmes. Surtout, imaginez qu'on essaye de sensibiliser sur les mutilations génitales ou sur les mariages d'enfants, alors qu'il y a la pandémie. Les gens ne sont pas enclins à écouter. Donc, c'est venu perturber nos activités de sensibilisation. C'est pourquoi il a fallu réinventer, voir comment on peut le faire. Et ce que nous faisons actuellement, c'est la consigne que nous avons donnée partout à tous nos comités, c'est que si on ne peut pas se déplacer, au moins les ondes des radios se déplacent. Et je vous remercie parce que vous permettez de nous adresser au reste de l'Afrique, au reste du monde, sur la mutilation génitale féminine.
Vous êtes entre Conakry, Addis Abeba et Washington. Alors, on sait que dans certains pays d'Europe, notamment la France, l'Angleterre, les mutilations génitales féminines sont interdites, des peines sont appliquées, elles sont très sévères. Et l'on sait que dans beaucoup d'États aux États-Unis, les mutilations génitales féminines ne sont pas interdites. Quel problème cela présente-t-il pour vous ?
Il y a deux pays qui ont mis, quand même, au niveau extérieur à l'Afrique, qui ont mis le sujet des mutilations génitales féminines à l'index, ce sont les États-Unis et la France. Aux États-Unis, il y a au moins une dizaine d'années ou même une quinzaine d'années, où une Togolaise qui était venue demander asile à cause des mutilations génitales féminines avait été acceptée. Et ce n'est pas une loi, mais une directive fédérale existe. Ça, c'était un peu le résultat de nos sensibilisations. Quand vous allez dans les ambassades américaines partout, il y a des choses qu'on vous dit de ne pas faire quand vous venez aux États-Unis. Et sur cette liste, il y a les mutilations génitales féminines. Donc c'est un effort, mais on doit aller plus parce que la structure politico-judiciaire, sociale des États-Unis est très complexe. Les pouvoirs sont là, c'est centre-choc. C'est un peu compliqué. Par exemple, si nous avons une loi fédérale claire et nette, généralement, cette loi aussi vient faire choc avec des lois locales des États. Alors, c'est pourquoi notre comité aux États-Unis est en train aussi de faire une extension de ses branches à travers les États-Unis pour que dans chaque État, qu'on puisse sensibiliser les responsables politiques de là-bas, les maires, les comtés. Il faut les sensibiliser parce que nous devons savoir qu'il y a certains qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Alors, il y a un grand travail de pédagogie à faire. Cela ne décourage pas.